vit la société.
Bon dimanche, RVE, il est 9h.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. Merci à notre ami Jean-Marc, hein, qu'on retrouvera effectivement avec Jean-Pierre à partir de 11h, après Tribune Sport et Tribune Foot. Tribune Foot, où après le club de Ablis-Sainte-Même, la semaine dernière, nous recevrons le club de la Queue, les Yvelines, hein, l'US Yvelines. Et puis on fera un petit bilan du colloque organisé sur l'évolution des attaquants hier du côté de Créteil avec Jean-Loup Leplat. Et puis ce matin, dans Tribune Sport, entre donc 9h et 10h, on parlera des pronostics hippiques sur l'hippodrome de Rambouillet. On retrouvera Jean-Claude d'ici quelques minutes. Et puis, la semaine dernière, on avait un marathonien des sables, un baroudeur, hein, Manuel Penquin. Eh bien, ce matin, on a un champion du monde, Régis Viateur, qu'on est à nouveau ravi d'accueillir. Régis, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez venu il y a un an et demi, quelques semaines après votre titre, votre premier titre de champion du monde. Donc, on avait promis de se revoir un peu plus d'un an après. C'est chose faite aujourd'hui. Vous allez, dans quelques mois, défendre votre... essayer de conquérir, en tout cas, un troisième titre mondial. Et vous allez donc défendre un deuxième titre consécutif obtenu l'année dernière en Allemagne.
Oui, tout à fait. C'était en Allemagne en juillet l'an passé. Mm-hmm. Et là, 2008 en Angleterre.
Très bien. Donc, champion du monde de voile, catégorie tempeste. Hein, naturellement, on essaiera de savoir ce qu'est la catégorie tempeste. On parlera aussi de voile de plaisance, parce que on parle souvent de voile au grand large, hein, un peu moins de voile de plaisance. C'est une année olympique, donc c'est important. Et puis aussi, on parlera, Régis, du club de Saint-Quentin, dont vous êtes licencié, c'est ça?
Oui, tout à fait. Le club est une activité locale, qui fait l'activité loisir également et compétition.
Ça fait combien de temps dans le domaine de la voile et pourquoi la voile? Comment on en arrive à pratiquer ce sport et à devenir un champion comme vous l'êtes aujourd'hui, un champion du monde?
Sur une partie découverte grâce aux écoles de voile, oui, qui sont présentes partout sur le territoire, et la possibilité d'être dans des clubs comme le club de voile de Saint-Quentin pour pratiquer régulièrement et également travailler au club de voile.
Vous avez commencé ce sport à quel âge?
J'ai commencé, j'étais en primaire, j'avais à peu près 7-8 ans, et puis ensuite j'ai pratiqué l'été, et ensuite vraiment en compétition à 20 ans, dans les séries des rivers et après quillard de sport.
Et comment vous avez découvert ce sport, comme ça, par accident, ou c'était quand même, il y avait des origines familiales aussi, il y avait de la famille qui pratiquait cette activité sportive?
En fait, généralement, on commence par rapport aux vacances l'été, en bord de mer,
surtout la voile,
sur les grands lacs, et j'ai commencé à un club de voile qui s'appelle le club de voile de Sanguinet, dans les Landes, et donc je passais les vacances là-bas, et ensuite, lorsque je suis revenu en région parisienne, pendant l'année scolaire, j'ai commencé à pratiquer sur Saint-Quentin.
D'accord. Alors, Gilles, la météo, c'est souvent un fait important, hein, pour la voile. Alors, on va écouter les prévisions météo de nos amis donc, de Trappe pour aujourd'hui. Ensuite, on aura un tout petit peu de pub. Et ensuite, on reprend donc les dériveurs d'ici quelques minutes. On y va. Oui, et bien Régis, avant de remonter dans notre embarcation, on va aller du côté de l'hippodrome de Rambouillet, où nous attend donc Jean-Claude. C'est la deuxième réunion de la saison. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Philippe, comment vas-tu?
Ça va très bien. Et comment ça s'est passé il y a 15 jours, hein? Une météo pas très favorable, hein?
Tu sais, on a des problèmes tout de suite avec malheureusement une météo qui est très très compliquée. Et on a eu de la neige, hein, la dernière réunion de Rambouillet. Il y avait quand même beaucoup d'ambiance car on avait le Salon du Vin qui était sur l'hippodrome et qui a permis quand même de faire venir du monde. Mais malgré les installations qui sont super, car tout est couvert pratiquement à Rambouillet, hein, les tribunes, le hall, eh bien le temps était pas de la partie, hein. Ça fait deux fois en fait que c'est pas agréable du tout. Alors j'espère qu'aujourd'hui ça va être mieux. La météo apparemment est mitigée, hein, on va dire ça comme ça, mais il fait très doux par contre, hein, très doux. Donc sur l'hippodrome de la Villeneuve, dans un cadre très agréable, les familles vont pouvoir venir se détendre, on l'espère, cet après-midi. Voilà Philippe.
Alors on va rappeler quand même les prix d'entrée, Jean-Claude, hein.
Alors 5 euros, toujours 5 euros, qu'est-ce que c'est 5 euros? C'est de 13h à 19h, bon vous voyez, par rapport, mettons, une place de cinéma qui peut être 8 ou 9 euros, c'est un endroit très convivial, très sympathique, les enfants c'est gratuit, et toute l'année on a pour les enfants des animations très très importantes, on a des structures gonflables, ateliers de maquillage et des petits circuits de sulky pour enfants.
Oui, parce que...
De nombreux cadeaux, enfin beaucoup de choses, quoi. On fait tout pour la fête. Monsieur Poisson, le président, a décidé que cette année, ça sera l'année des enfants à Rambouillet.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a bien saisi ça dans le monde des courses, que les courses, c'est souvent une affaire de famille. On fait autour, donc, des courses, un tas d'événements. Hein. On crée un tas d'événements, et c'est dans tous les hippodromes. Hein.
C'est absolument important. Bon, dans le temps, c'était pas tout à fait ça. Maintenant, ça a changé. Les familles doivent venir sur les hippodromes, se détendre, passer un moment de plaisir, un moment de bonheur. Il y a des poneys, on a cet après-midi 140 chevaux qui vont courir avec les meilleurs drivers de Vincennes, qui vont être à Rambouillet, donc à la Villeneuve. Je crois que c'est le moment, si vous voulez venir découvrir les courses, eh bien, de venir nous voir. Vous allez passer un moment très agréable sur l'hippodrome de Rambouillet. En plus, nous sommes faisant partie des grands hippodromes de France, si on peut dire, où on peut jouer les joueurs. Ont à la fois la possibilité de jouer sur toutes les courses de Rambouillet, bien sûr, mais également eh bien, sur la réunion d'Auteuil aujourd'hui, la grande réunion d'Auteuil avec le prix du président de la République. Donc c'est un tout ici à Rambouillet, hein, c'est important.
Absolument. Alors on écoute les pronostics, Jean-Claude.
Alors, c'est une réunion intéressante où ce sont que des sponsors. Alors un petit message pour les sponsors, quand on a que des prix de Rambouillet avec des sponsors. Si vous avez des gens de la radio, enfin des auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient sponsoriser une course, n'hésitez pas à vous contacter, Philippe, et puis pourquoi pas après vous l'en donner, on verra ce qu'on peut faire. Mais c'est très intéressant pour un prix très modique.
D'accord, pas de problème.
De sponsoriser une course, notez-le, je crois que ça peut être intéressant pour des grandes sociétés de Rambouillet. Alors le pronostic de la première course, le 12, Reine du Las Vegas, devant le 4, Riviera de Loup. Dans la deuxième course, le 2, Rose de Star, devant le 11, Ramazan. Dans la troisième course, le 8, Carte de Soupir, devant le 5, Caléo du Chef. Dans la quatrième épreuve, le 3, Câlin de Laumont. Et le 7, Quel Baraka. Je vous rappelle en passant que le départ de la première sera donné à 14h. Dans la cinquième épreuve, Nostradamus, le 3, fait l'objet de bruits les plus favorables devant le 12, Ombrage de Tiercé. Dans la sixième course, Roger Baudron fera le déplacement des grandes ambitions avec le 14, Origan de Vry, devant le 8, Mât de Nappe. Dans la septième course, le 14, Loustic d'Apignier, devra surtout craindre le 15, Nélito d'Ulysse et le 16, Magique Lutin. Dans la huitième épreuve, le 6, Papy Chif Mabon, avec le 18, Perle de Grandchamp. Et on termine par la neuvième, où il y a une très bonne chance, avec le 11, Marathon Villiers, devant le 8, Nadir du Douai. Voilà, Philippe, pour les pronostics de Rambouillet.
Très bien. Et pour le prix du président de la République,
alors,
je peux...
Pour la grande course de cet après-midi, le grand handicap d'Auteuil, le prix du président de la République, voici ma sélection. Trois chevaux semblent se détacher du lot, le 5 Hokkaido, qui va être là dans son premier handicap, donc c'est très important, c'est un bon cheval, le 5 Hokkaido. Le 6 Désir Royal, remarqué la dernière fois, le 10 Moscandido. Alors Moscandido, Marcel Roland, son mentor, a tout simplement dit que c'était la course visée, donc il y comptait très gros. 5, 6 et 10, on va ajouter le 12 Natchez de Kerser, le 8 Maiev, le 11 Shop Royal. Et deux beaux outsiders pour les abatteurs un peu de, eh ben, un petit peu plus, hein, de 30 ou 40 contre 1, le 14, Nil Altesse, et le 16, Neji Valis. Je répète ma sélection, 5, 6, 10, 12, 8, 11, 14 et 16. Vous nous retrouvez tous les jours au 08 99 70 73 00. Pour notamment les informations du Quintet journalier.
Très bien, merci Jean-Claude. Et puis on vous retrouve, alors ça sera la prochaine réunion, ça sera le 8 mai, donc on vous retrouvera exceptionnellement la veille dans le journal de 19h.
Donc le mercredi soir.
C'est ça.
Voilà, c'est la prochaine réunion, une réunion où il y a toujours beaucoup de monde, le jeudi 8 mai, qui cette année aura une particularité, ça sera à la fois une fête bien sûr en France, et en plus le jour de l'Ascension.
Absolument, merci Jean-Claude.
Bonne journée.
Voilà. Et puis bonjour à toute l'équipe d'organisation. Régis, l'hippodrome, vous y êtes allé la semaine dernière, je crois que c'est ça. Hein.
Oui, je suis allé justement la semaine dernière en famille pour me promener par rapport à la fête du printemps. Mm-hmm. Et j'ai d'ailleurs vu tous les aménagements qu'ils étaient en train de faire au niveau de l'hippodrome. Là.
Et si un jour vous avez la possibilité, allez-y en famille, hein, on l'a dit. Hein, tout est fait pour que les familles soient donc accueillies dans les meilleures dispositions. Donc allez-y, vous allez voir, c'est quand même un beau spectacle. Hein. Et puis peut-être que vous trouverez des points communs avec votre sport à voile. Ouais. La météo est souvent aussi prédominante hein, dans les courses hippiques.
Hein. Ah oui, la météo a aussi sa part. De chance.
Très bien. Alors, on l'a dit, hein, vous allez défendre un troisième titre de champion du monde. Ça sera au mois d'août. Ça sera paradoxalement en pleine période des Jeux Olympiques de Pékin. Et ça sera sur le site des Jeux de 2012 à Londres.
Oui, tout à fait. Ce sera à l'ouest de l'Angleterre, là, sur la même période, hein, pendant une semaine, du 15 au 22 août. Et on part avec plusieurs bateaux français également là-bas.
Alors comment ça va se passer? Comment on se prépare psychologiquement, physiquement? On va dire, bon, vous étiez venu, on l'a dit, hein, dans nos studios en novembre 2006, vous étiez champion du monde, titre obtenu dans une ville qu'on connaît bien, puisqu'on est allé faire quelques émissions du côté de Fort-de-France. Vous avez conservé votre titre après. Qu'est-ce que vous gardez? C'est plus dur d'avoir un premier ou un deuxième titre?
Alors, les conditions étaient complètement différentes entre la Martinique et l'Allemagne. La Martinique, c'est vrai qu'on a eu des conditions vraiment idéales par rapport à notre gabarit et la puissance du bateau, tout ça. L'Allemagne était beaucoup plus difficile par rapport aux adversaires et aux conditions météo. Là, l'Angleterre, on va avoir des équipages anglais qui seront préparés pendant un an sur leur site. Et qui seront prêts par rapport justement à l'épreuve et à l'équipement qu'ils sont en train de préparer par rapport à 2012.
C'était un peu inattendu ce titre en 2006 à Fort-de-France. Vous étiez parti vraiment avec l'ambition de gagner ou alors vous avez dit si on fait une bonne place ça sera bien?
On était parti dans l'objectif de gagner, oui.
Quand même.
À ce niveau-là, parce qu'il y a un tel investissement de temps, matériel, d'organisation, qui fait qu'aujourd'hui, le déplacement, le but, il est de gagner ou d'avoir la meilleure place en prenant après toutes les situations. Ce qui nous est arrivé en Allemagne où, jusqu'au dernier jour, nous étions trois. Possible à la champion du monde le dernier jour, le vendredi matin.
Alors, vous avez été champion du monde, vous avez remis ça en Allemagne. Conserver son titre, c'est beaucoup plus difficile que de jouer les surprises et d'obtenir un premier titre.
Il y a eu beaucoup plus de tensions et d'attaques au niveau des adversaires sur l'eau, hein, sportivement et très bien, mais dans la façon de naviguer. Et ça a commencé même au départ à la jauge, ça a commencé sur le contrôle du bateau, ensuite la première manche. Enfin voilà, nous sommes rentrés tout de suite dans le vif du sujet sur la régate à l'arrivée en Allemagne.
C'est-à-dire il y a toujours un peu d'intox entre vous, ça se passe comment? D'abord, ce sont des compétitions qui durent sur un week-end, sur plusieurs jours?
C'est une compétition qui dure sur 5 jours. D'accord. Nous avons entre une à deux manches par jour programmées, maxi. Hein, et chaque manche dure à peu près 1h30. Donc pendant 1h30, on tourne autour de 3 à 4 bouées en fonction du type de parcours et s'il y a d'autres séries présentes sur le site. Et ensuite, c'est vrai que ça se prépare avec les adversaires qui arrivent, qui ont tel type de bateau, tel type de voile.
Un peu d'intox quand même, hein, pour montrer que leur embarcation est prête, quoi.
Oui, on a tous notre façon de faire. Après, on a tous notre façon de préparer le bateau, la façon d'être sur le quai, la façon de passer du temps, l'équipe, le soutien autour du bateau fait partie aussi de la régate.
Justement, comment on arrive à tuer le temps entre ces différentes régates? Parce que vous l'avez dit, c'est sur 4-5 jours. Alors bon, il y a deux régates par jour. Et puis restant du temps, comment on tue le tout? Est-ce que psychologiquement, on n'essaie plus penser à son épreuve? On se reconcentre sur l'épreuve du lendemain? Est-ce qu'on dort bien la nuit? Il y a des grosses qualités mentales qu'il doit falloir donc posséder.
Le matin, on se lève, on se prépare. Généralement, les courses commencent vers 11h midi.
Ouais. Est-ce qu'on a bien dormi, déjà?
Déjà, il faut bien dormir.
Ouais.
Déjà, il faut bien dormir, il faut bien se reposer.
Faut pas penser au...
il faut avoir fait les calculs.
Ouais.
Il faut avoir fait les calculs de si on fait telle place, ça donne tel résultat. Anticiper, en fait,
ouais,
par rapport au classement. C'est ce qu'on est obligé de faire le dernier jour. On a passé la soirée du jeudi soir à faire tous nos calculs pour avoir de façon à savoir quelle marge de manœuvre nous avions le vendredi. Est-ce qu'une place de troisième, nous avions calculé qu'il fallait qu'on fasse pas plus de deux ou trois sur les deux manches du vendredi pour conserver le titre. Voilà. Et ça, il faut le calculer en avance.
Oui, parce que c'est très tactique, hein. La voile, c'est aussi ça. Hein,
c'est très tactique. Il y a l'état de la mer qui rentre en compte. Il y a la direction du vent, l'évolution. L'évolution dans la journée. L'évolution dans les 30 secondes. Il y a différents types de vent. Il y a la position des adversaires. Il y a la zone de départ. À quel moment doit-on partir au comité, au viseur, en prenant en compte l'évolution du vent, en prenant en compte les adversaires, où se trouvent les adversaires. Voilà. Mm-hmm. Et après, c'est un jeu de positionnement autour des bouées.
Oui, et on va rappeler que ce sont des courses de classement. Hein, on marque des points à chaque classement, et puis c'est celui qui est le plus régulier, qui est le plus complet, qui est champion du monde à l'arrivée, c'est ça?
C'est celui qui a le minimum de points. Ouais. Donc premier à un point, deuxième deux points, troisième trois points. Ensuite, on peut retirer une à deux manches en fonction du nombre de manches courues. Qui permettent éventuellement de rattraper une erreur ou deux erreurs d'une mauvaise manche.
Alors on va rappeler, vous êtes champion du monde de voile, catégorie Tempest. Alors pour le grand public, la catégorie Tempest, c'est quoi? Et pourquoi avoir choisi ce type d'embarcation, ce type de bateau?
On le choisit en fait au départ par rapport à notre taille, à notre corpulence.
D'accord.
Aujourd'hui, ça fait partie des deux. Enfin, j'ai un deuxième bateau sur lequel je navigue, c'est le 505 en dériveur, qui sont adaptés ou je suis adapté à ce type d'embarcation. Voilà. Hein. Parce que sinon, il y a d'autres bateaux où on va plutôt chercher à avoir des équipages qui font 100-120 kilos à deux. Alors que ce type de bateau va plutôt demander 160 ou 180.
D'accord, donc ça veut dire que le poids est important quand on commence dans la voile de plaisance. On peut prendre sa spécialité en fonction aussi de son poids, de sa taille, de son gabarit.
Le poids, la taille, si nous souhaitons faire de la voile loisir, le choix du bateau est également important. C'est pas la peine de prendre ce type de bateau pour faire le tour de l'île aux moines ou venir naviguer sur les étangs de Rambouillet. Ça sera pas adapté. Par contre, il existe d'autres embarcations qu'il faut également, c'est vrai, choisir par rapport à ce qu'on souhaite faire.
Alors, pour entrer dans le domaine technique, je crois que c'est un quillard, c'est ça, non?
Alors, le Tempest est un quillard.
Ouais, hein.
Un quillard avec grande voile, foque, spinnaker, et nous sommes deux donc dessus, et le skipper avec qui je navigue est Philippe Boite, qui navigue également 5-5.
Ouais. Comment s'est fait le choix de Philippe Boite? C'est un compil depuis très longtemps, ou finalement c'est le hasard qui a fait que vous avez navigué ensemble?
Nous naviguons ensemble habituellement 5-5 en tant que concurrent. Là, il s'est avéré qu'il m'a proposé donc au départ la Martinique de l'équiper.
Ouais.
J'ai eu honnêtement un peu de mal à refuser par rapport au lieu et par rapport à lui. En fait, nous formons une équipe, même si nous sommes concurrents à terre, ça se passe vraiment très très bien. Et c'est aussi toute cette ambiance qu'il y a dans la voile. C'est autant sur l'eau, le départ, la navigation, c'est un sport, il y a le titre, hein. Mais par contre à terre il y a tout un échange qui est fait, donc c'est pour ça aussi que nous arrivons à constituer des équipages et à croiser les équipages.
Mais auparavant, avant de participer à un championnat du monde, il faut passer par d'autres épreuves. Tout le monde ne peut pas se présenter à des championnats du monde comme ça de catégorie Tempest.
Et si on s'y présente, tout dépend après qu'est-ce qu'on souhaite comme comme résultat. Pour se préparer, en fait, donc on utilise le 5-5, le dériveur, qui permet de préparer les équipiers et les barreurs en binôme. Et ensuite, ce type de bateau, parce que le Tempest, on peut pas naviguer partout avec, et surtout pas donc en Île-de-France, sauf sur la Seine et la Marne, où nous avons des clubs de voile qui ont ce type de bateau. Mais on retrouve beaucoup ce bateau en bord de mer.
D'accord. Donc vous, ça vous oblige à partir très loin, pour en Normandie, en Bretagne, même beaucoup plus loin, pour pratiquer, pour vous entraîner, vous initier avec le bateau.
Ça oblige à descendre sur Bordeaux, aller à La Rochelle. Encore plus loin, ouais. Le bateau est préparé là-bas par on a un préparateur de matériel spécialisé, Jean-Pierre Huten, qui est là-bas. Donc ça nous oblige à faire du déplacement, oui, à faire beaucoup de kilomètres.
Oui, et puis naturellement, un matériel qui doit être fin prêt, il y a toute une équipe qui travaille autour, ça coûte cher d'entretenir comme ça un bateau, une embarcation.
Ça coûte assez cher, ça demande régulièrement de changer les voiles.
Lorsqu'on
attaque un championnat du monde, on a un jeu de voiles complet neuf. Vous me demandiez tout à l'heure ce qu'on faisait par rapport à une journée. En Allemagne, nous avons le mercredi, lorsqu'on a repris la tête du championnat, nous avons eu beaucoup de vent, on n'a fait qu'une seule manche.
Oui.
Nous avons passé l'après-midi, après, à tout vérifier, tout réparer, tout resserrer, c'est vis par vis.
On peut reporter une manche comme ça, une régate au cours d'une compétition, ou on l'annule carrément? Par exemple, s'il fait mauvais temps, donc c'est reporté au lendemain, c'est-à-dire qu'on en fait trois au lieu de deux, ou alors
oui, tout à fait.
Ça diffère d'une journée non.
Non, en fait, sur la base, c'est maximum deux manches par jour sur un mondial. Après, il y a d'autres régates où on peut faire 4 à 5 manches dans la journée, hein, on part beaucoup plus tôt. Saint-Raphaël, qui a eu lieu il y a 15 jours, où l'équipage est descendu, moi j'ai pas pu descendre pour raisons professionnelles, il y a eu sur 4 jours de régate, 3 jours annulés à cause de la force du vent.
Ouais, donc carrément annulé, c'est pas reporté. Là, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 5 régates, on n'en fait que 2, quoi. C'est ça.
Il y a eu 2 manches, en effet.
Ouais, c'est ça, 2 manches, c'est tout. Ah oui, donc ça change la donne quand même. Hein.
Il y a eu 2 manches, il y a eu 10 heures pour descendre, 10 heures pour remonter, 5 jours sur place. Oui, tout à fait.
Alors vous avez des sponsors, des partenaires, je suppose, parce que pour entretenir son bateau, c'est comme celui qui lance dans la compétition automobile, hein, qui doit avoir un jeu de rechange, de pièces et des stocks de rechange. Je suppose que pour vous, c'est pareil, quoi.
Alors il y a en effet des sponsors qui nous aident. Au niveau national, il y a Paris Voile et Pax Automobile qui participent à notre dynamique. Il y a le club de voile également qui est présent, la base de loisirs, qui participe également au déplacement. Et au niveau local, j'ai eu des aides, une aide de l'agence des arcades de Rambouillet, l'agence immobilière.
Oui, c'est un passionné de bateau, hein, c'est un passionné de voile, donc ça aide. Hein.
Tout à fait, oui. On s'est rencontrés, c'est un passionné de voile et il navigue beaucoup, et c'est vrai que quand on se voit, on échange beaucoup sur la voile. Après, j'ai eu d'autres entreprises au niveau local qui m'ont aidé également, comme Atelier Service Motoculture, qui est en espace vert et qui vend du matériel sur Coignières, m'a également aidé, même en termes de communication et en termes de soutien financier. Voilà.
Alors, c'est vrai que vous êtes champion du monde, il faut aller frapper aux portes. Est-ce que ça aide? Est-ce que les portes le ferment? Parce que il y en a beaucoup de gens comme vous qui, dans tous les sports, vont taper les gros partenaires. Quel est l'accueil? Quelles sont les réactions de ces partenaires au départ? Assez sceptiques, ou aussitôt ils ouvrent facilement la porte?
Non, ils ouvrent la porte. Là, le dernier, c'est Generali Assurance, pour les citer, parce que c'est vrai qu'ils souhaitent avoir mon dossier complet. Pour nous aider, pour faire les déplacements. Maintenant, ce qui manque aujourd'hui, c'est de faire le tour de tout le monde, d'aller demander, de demander des aides.
Oui, parce que quand on part comme vous en compétition, on emmène donc le bateau sur une remorque, et quand on part à Fort-de-France, il prend l'avion, le bateau, hein. Ça aussi, ça coûte cher.
Tout à fait, le déplacement, là, on va partir là, en Angleterre, chaque fois on prend le ferry, le déplacement, l'essence, le carburant.
Donc ça, on y met un peu d'argent de soi, ou c'est carrément les sponsors qui payent? Parce que sinon, c'est pas possible, quoi, c'est pas pratique.
J'essaye de trouver des sponsors pour compléter, mais sinon, c'est une partie financière qui vient du... Je suis pas à 100% sponsorisé, ça serait bien. C'est d'allier le travail sur le fruit du travail de la base de loisirs plus plus les aides ponctuelles des sponsors.
Alors, vous êtes champion du monde, hein, on l'a dit, de titres consécutifs, un obtenu en Martinique et puis conservé en Allemagne. Est-ce que votre vie, Régis, a changé? Parce que, bon, malheureusement, c'est une catégorie qui n'est pas catégorie olympique, hein, donc vous ne serez peut-être jamais champion olympique, mais est-ce que votre vie a changé médiatiquement ou même au niveau des différents sponsors? Vous êtes quand même un peu plus sollicité que par le passé.
Oui, un petit peu plus. Ouais. Bah, déjà, je voulais vous remercier parce que déjà de m'avoir invité et de me réinviter de nouveau.
Mais on l'avait promis. Hein, donc,
voilà. Déjà, c'était voilà, ça me permet également de représenter l'activité voile et le nautisme dans les Yvelines. Je suis également sollicité. Oui, ça m'a permis d'avoir des contacts, même professionnels. D'être à l'INSEP, d'intervenir au niveau du jury. Donc ça a commencé en septembre où je m'occupe de la formation, de valider des diplômes pour les brevets professionnels des sportifs de haut niveau et pompiers de Paris par exemple. C'est issu en fait de ça, c'est issu des résultats sportifs et du milieu professionnel.
Les médias aussi quand même se sont donc, excepté nous, intéressés un peu plus à vous. Il y a des articles régulièrement dans les journaux. Vous avez été récompensé deux fois donc par la ville de Rambouillet pour le trophée des sports. On vous a vu aussi avec le comité départemental olympique et sportif des Yvelines pour les éclats olympiques. Donc ça aussi, c'est quand même ça ouvre des portes quoi.
Ah, ça ouvre des portes, oui, bah, tout à fait. Le comité olympique m'a remis un éclat d'or
de
la ville de Versailles. La ville de Rambouillet sur l'exploit de l'année pour la deuxième année consécutive. C'est vrai que ça ouvre des portes, ça ouvre des contacts, ça donne des idées, ça donne des idées de projets. Même de dynamique locale.
Ouais, et c'est dommage que votre catégorie soit pas catégorie olympique. Ça donne des regrets, ça, quelque part. On dit mince, c'est dommage.
C'est vrai que c'est un choix, c'est un choix des sportifs qui ont participé là au mois d'août aux Jeux Olympiques, qui s'investissent et qui font leur sport tous les jours, au quotidien, qui vivent de ça pendant 4 ans, 8 ans sur toutes les préparations olympiques. Hein. Bon, en voile. Les personnes pratiquent beaucoup plus longtemps. Hein, la carrière du sportif.
Aller jusqu'à 5 ans, 60 ans, sans problème. Hein.
50 ans, 60 ans, même se présenter aux Jeux Olympiques à cet âge-là n'est pas un problème. C'est l'avantage de ce sport.
Alors justement, vous l'avez choisi à quel âge le Tempest, et est-ce qu'on est, est obligé de se spécialiser, ou alors est-ce qu'on peut changer comme ça de catégorie d'embarcation à tout moment de sa carrière sportive?
J'ai la chance de pouvoir naviguer donc sur le 5 au 5, qui permet d'ouvrir un certain nombre de ports, qui est un peu la Formule 1 du dériveur avec tous les réglages possibles et inimaginables sur le bateau. On a une jauge qui permet de faire évoluer tout le matériel. Donc ce qui permet après de rebasculer sur d'autres embarcations, comme le MOM 30 en quillard, un bateau qui est sur La Rochelle, sur lequel on se prépare et on envoie des jeunes, le Tempest. Après, c'est dans la préparation, l'affinement des réglages et le réglage du bateau. Où là, il faut être très, très...
Oui, puis il y a peut-être des bateaux qui coûtent plus cher que d'autres. Il y a peut-être des disciplines, des catégories où ça coûte plus cher que d'autres.
Ah, nous, ça, oui.
Ouais, bah, ça aussi, c'est un problème.
Oui, puis c'est un sport matériel. Donc,
oui.
En résine, en carbone, époxy, Kevlar, enfin du...
Oui, ça a beaucoup changé aussi dans votre sport. Hein, la voile de plaisance, le matériel a énormément changé. Ça apporte quoi comme plus?
Alors, beaucoup sur le
plus vite,
poids,
le
poids, la rigidité des coques et la façon dont est réparti le poids. Lorsqu'avant, nous faisions des bâtons en résine, c'était difficile de bien répartir. Là, actuellement, on utilise comme, par exemple, du nid d'abeille qui permet d'alléger certains endroits du bateau. On retrouve, en fait, du composite comme en Formule 1 ou d'autres bateaux type carbone.
Pour l'aérodynamisme, c'est mieux pour la pénétration dans l'eau.
Sur l'eau, oui, parce que après c'est le revêtement qu'on choisit pour que ça puisse glisser plus ou moins rapidement. Le choix de la couleur également est aussi important par rapport à une flotte. Lorsqu'on part sur un même départ et vous mettez que des bateaux blancs et puis un bateau bleu, le bleu sera forcément plus repérable. Donc tous ces choix-là doivent être faits avec une réflexion sur comment se déroule une manche et comment aller le plus vite possible à l'arrivée.
Alors, donc vous l'avez dit, hein, vous avez une équipe qui s'occupe de bateaux. Vous allez souvent leur prêter main forte dans la préparation du bateau vers La Rochelle. Vous allez souvent les aider, vous allez souvent superviser l'embarcation.
On a une liste de matériel qui, suite à un championnat, leur est donné. Et après, on participe au suivi du remplacement. Et quand on est sur un championnat, on est tout seul. Ils ne sont pas là. Mm-hmm. Ils restent sur La Rochelle. Donc, c'est à nous de sortir les caisses à outils, démonter tout et de tout préparer.
Ouais. Et avec Philippe Boite, ça se passe très bien. Jamais de coup de gueule. C'est plus qu'un duo. C'est une complicité entre vous. C'est indispensable, une complicité.
On a une réelle complicité sur les épreuves. Je dis pas que tout va bien tout le temps.
Oui, c'est partout pareil.
On est en couple sur le bateau et on est en équipage. Il y a des choix à prendre. Il y a des décisions. Il y a à assumer la décision. La bonne, la mauvaise, mais ça se passe très bien, et ça se passe avec l'envie d'aller tous les deux, de se donner au maximum, et d'arriver au résultat pour lequel nous sommes préparés.
Mais vous êtes toujours d'accord sur l'essentiel, quoi. Heureusement, d'ailleurs.
On est d'accord sur... Il faut qu'on soit d'accord, à un moment donné, quand on se pose la question, il faut qu'on se la pose suffisamment tôt, par rapport au choix du parcours, savoir si on part à gauche, à droite, rapport à la zone de navigation, si on part au viseur, au comité, c'est qu'en fait, on a toute une liste de questions qu'il faut qu'on se pose avant le départ. Et après, il y a le choix de l'instantané où, voilà, il y a un autre concurrent qui a réagi, qui s'est positionné. Il faut prendre tout de suite une nouvelle décision, virer, pas virer, se redécaler, se repositionner par rapport à la flotte, à l'autre adversaire, l'axe, la bouée, enfin, toutes ces décisions-là, il faut les prendre rapidement, donc on n'a pas le temps non plus de
cogiter, quoi, de tergiverser, quoi. Faut, ouais. Ouais. C'est souvent de feeling, ou c'est souvent au feeling.
Ça arrive où on a une manche comme ça où nous étions 12e sur la manche. Il a fallu écarter, faire un choix. On a dit on avait la possibilité de gauche ou de droite.
Hey.
Bon, et on a pris parce que la flotte était au centre. Et il a fallu qu'on écarte, sinon on suivait tout le monde. Et bon, avec notre vitesse, on sera peut-être venu à la 5e, 6e place. Et là, ça nous a permis de revenir à la 3e place. Quoi.
Et lui aussi, donc, va vous prêter main forte dans la préparation du matériel, du bateau. Et puis, il part aussi, en même temps que vous, en reconnaissance, quand vous allez sur La Rochelle, sur Bordeaux.
Ah bah oui, tout à fait, oui. On fait les déplacements ensemble, on conduit ensemble le camion, on attache ensemble le bateau, et on se déplace. Et dans le choix des voiles, il participe. Enfin, il y a un investissement à 100%. La notion de préparation des bateaux est sur du remplacement, et sur cette partie de remplacement. Après, à nous de le faire évoluer, d'apporter les modifications de réglage, les modifications des voiles, de donner notre point de vue sur la forme des voiles, de retransmettre au voilier, qui refait les modifications, qui renvoie un jeu de voiles, qui sont les voiles Le Billon, là, en Bretagne, qui nous prépare les voiles.
Alors, ça, c'est l'épreuve la plus importante de l'année, hein. C'est le rendez-vous phare, c'est le must. Il y a d'autres épreuves auxquelles vous participez dans une année, ou alors vous ciblez uniquement sur ce rendez-vous, j'allais dire maintenant presque devenu annuel.
Alors, il y a ce rendez-vous annuel, il y a le rendez-vous des championnats de France vont avoir lieu à l'Ascension, et il y a le rendez-vous de Saint-Raphaël, voilà, qui sont les trois grands rendez-vous en France. Ensuite, on a une autre régate en Allemagne et une autre régate en Suisse.
Et alors, on peut rater ces championnats de France et devenir champion du monde?
On peut rater, oui. Bah, l'an passé, j'étais en 5-5. Nous avons fait une 5e place en 5-5 avec un autre barreur qui je navigue en 5-0 et être champion du monde sur une autre épreuve.
D'accord, ok. Parce que vous changez aussi de partenaire, parfois ça peut arriver.
Oui, tout à fait, parce que comme je disais tout à l'heure, on est une équipe de 4, 2 barreurs, 2 équipiers, et nous tournons en fait entre nous, en fonction de notre disponibilité. On travaille tous les 4, c'est pas notre travail de faire du bateau, même si on aimerait bien faire ça tout le temps, tous les jours.
Donc un sport individuel peut être aussi un sport par équipe, la voile c'est ça aussi, hein?
Oui, tout à fait. Puis c'est dans cet esprit où nous souhaitons développer l'activité nautique et entretenir la voile. Parce que moi, j'ai aussi cette partie d'entraîneur, encadrement d'équipe. Donc,
on va en parler de ça aussi.
L'idée, c'est de transmettre ce message-là. C'est sur l'eau, c'est la régate. Il y a la partie, il faut être sérieux, on s'entraîne. Mais il y a aussi surtout le côté convivial où le soir, on se rencontre, on s'échange.
Alors, justement, on se prépare comment à longueur de, d'année pour tous ces rendez-vous. Il y a une préparation, on l'a dit, mentale. Hein, c'est-à-dire qu'il faut bien connaître son, la mer, il faut bien connaître son, son bateau. Mais il y a aussi une préparation physique. Vous faites un peu de footing, un peu de vélo.
Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal de faire ça toutes les semaines et tout le temps. Ouais,
on fait attention à ce qu'on mange.
Oui, alors par contre, oui, voilà, faut suivre son poids.
Ah, quand même.
Faut faire attention à son poids. Il faut que j'ai un intervalle dans lequel je dois me trouver. Donc j'essaye de faire attention. Maintenant, pour aller plus loin, il faudrait se préparer encore plus sérieusement. C'est clair.
Ouais. Alors justement, physiquement, être dans une bonne condition, ça peut avoir, ça peut être important. Il peut y avoir des répercussions. Qu'est-ce qu'on gagne si on est mieux physiquement?
On va gagner en résistance.
D'accord.
Voilà. Là, on va gagner à ce moment-là lorsqu'un concurrent attaque sous spi par exemple et qu'il faut pouvoir réagir, ressortir au trapèze, s'allonger et tenir le spi qui fait 30 mètres carrés. Il faut pouvoir le tenir, il faut pouvoir attaquer. Alors soit sur de la résistance comme ça, et ensuite les manches durent quand même entre une heure et une heure et demie. Donc il faut durer. Il y a différentes positions dans le bateau, allongé à l'extérieur du bateau, au trapèze, comme on peut être accroupi en fonction des conditions météo, se déplacer, réagir vite, observer, se relever. Donc
on peut être complètement cuit puis rincé après 3-4 jours d'épreuve.
On peut être cuit dès le premier jour.
Oui, dès le premier jour.
Bien se reposer et bien repartir. Ouais.
Et psychologiquement, vous êtes comment avant une épreuve? Est-ce que chez vous, vous êtes plutôt calme, irascible? Comment ça se passe? Vous enfermez, vous vous isolez, vous voulez faire le vide autour de vous?
Juste avant le championnat, ou même pendant le championnat, c'est vrai que lorsqu'on vient me voir.
On peut pas trop vous parler, quoi.
Non, j'essaye, un peu de mal à échanger et je vais plutôt me concentrer sur le matériel, sur la trajectoire, en fait, qui va nous emmener sur la ligne de départ. Voilà. Moi, je vais imaginer, en fait, tout ce trajet-là, de façon à ce que l'équipage soit prêt. Que le barreur et tout, on n'ait rien oublié dans toute cette préparation. Et c'est vrai que la régate commence à terre. Hein. La régate, comme je disais tout à l'heure, elle commence lorsqu'on arrive sur le parking à bateau et qu'on commence déjà à retirer le taux. Il faut déjà penser à tout réinstaller. Parce que chaque jour, en fait, il faut installer les voiles, réinstaller le compas, tout le matériel, repréparer.
Mais il y a une équipe qui vous accompagne quand même, les déplacements, non? Vous êtes vraiment que tous les deux, quoi. Il n'y a pas l'équipe qui vous suit également, ceux qui préparent donc votre bateau, qui vous suit aussi dans
Non. La préparation du bateau est faite. On descend le bateau deux fois par an sur La Rochelle. Et ensuite, le bateau, lorsqu'il est là sur Saint-Quentin ou sur Rambouillet, c'est à nous de l'entretenir, de remplacer, de le faire évoluer.
C'est comme pour
petite rayure, nous de la réparer.
C'est comme pour ceux qui font la compétition automobile. Hein. On a vu Pierre Buret il y a quelques semaines, c'est exactement pareil. Hein. Il y a la compétition, il y a la recherche des sponsors, et puis il y a ensuite la préparation du matériel et du véhicule. Hein. C'est les mêmes obligations. Hein.
C'est ça, il y a les impératifs.
Vous envisagez un jour de changer carrément d'embarcation, de catégorie, pour pourquoi pas un jour vous lancer dans une discipline olympique, dans une catégorie olympique?
On en a même encore reparlé hier après-midi au niveau du club de voile là, sur un bateau solitaire. Après, la difficulté, c'est qu'il y a aussi un choix à faire.
Un choix
familial. Je suis marié avec mes trois enfants. Donc je ne peux pas, je me vois mal partir pendant 4 ans sur un pôle, un pôle en bord de mer qui peut être La Rochelle, Brest,
ou hier même carrément hier, là-bas,
ou Le Havre, partir et laisser les enfants pendant 4 ans et faire que de la préparation.
Comment vous les voyez ces jeux là pour la voile française, hein, puisqu'on est dans une période olympique, hein, on va beaucoup parler donc des jeux dans les mois qui arrivent. Comment vous les voyez ces jeux pour votre sport, parce que souvent médiatiquement on parle plus du grand large que de la voile de plaisance.
C'est vrai que ça nous manque beaucoup. On parle beaucoup des traversées du Rhum, etc. Alors qu'il y a toute une dynamique au niveau des clubs de voile. Comme je disais l'autre jour à votre antenne, il y a plus d'une centaine de clubs en Ile-de-France. 25 rien que dans les Yvelines qui pratiquent.
Ah oui. Hein. Ah oui.
Voilà comment je vois la pratique. Nous avons des personnes qui sont prêtes à venir naviguer tous les dimanches, les samedis, pour du loisir. Hein, car il faut arriver à associer les deux.
Et c'est vrai qu'on sait que par tradition, une médaille donc au jeu, ça porte toujours des pratiquants. Donc vous attendez beaucoup de ces Jeux Olympiques. On l'a vu avec Faustine Méret, hein, qui a peut-être eu, qui a été médaillée. Ça a peut-être donné quand même un afflux de pratiquants pour vos disciplines.
Il y a eu, c'est vrai, une relance au niveau de la planche à voile, même sur Saint-Quentin. Ouais.
C'est lié la planche à voile et puis la voile, pour vous, c'est les mêmes activités, hein, non?
Oui, c'est la même famille du nautisme.
Ouais, c'est ça.
C'est différentes écoles.
Oui, oui, oui.
Ce que je dis, c'est différentes écoles, différentes pratiques, mais nous avons aujourd'hui une tendance à rechercher aussi de la glisse. La planche à voile redevient une dynamique après les années 80 qui a développé l'activité voile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est complémentaire. On va choisir du dériveur, du quillard, de l'habitable. Et c'est l'avantage de la voile. C'est de pratiquer à tous les âges, de pouvoir pratiquer différents types de supports, de commencer très jeune, à 6-7 ans, faire un premier stage de voile.
Et puis la course au grand large, ça vous plairait aussi un jour de tenter ce type d'aventure, ce type de voile? Ou pas du tout?
Honnêtement,
c'est
deux mondes
complètement à part.
Bah, c'est pas au programme.
Ouais, d'accord. Parce que certains ont commencé par la voile de plaisance, hein, comme Pajot, par exemple. Hein,
ah oui, tout à fait.
Hein,
oui,
et puis après, bon, ils sont passés.
Oui, bah, y a des tacticiens, et barreurs, équipiers qui sont aujourd'hui sur la course au large, qui ont fait les Jeux Olympiques, qui ont pratiqué, puis qui ont commencé en loisir avec leurs parents. Comme moi, j'ai commencé avec mes parents en voile sur toute cette notion de découverte.
Voilà. Très bien, ça passe très vite, donc on marque un petit break musical, et puis ensuite on va parler du club de Saint-Quentin quand même, hein. C'est le club phare de notre région, donc on va en parler. Allez, la musique auparavant. Nous sommes le 20 avril, c'est le printemps, il va faire bientôt très beau, donc certains vont peut-être vouloir aller faire de la voile ou de la planche à voile dans notre région. Les coins les plus propices, c'est d'abord la base de loisirs de Saint-Quentin, hein. Il y a ce club de Saint-Quentin qui est le club phare dans notre région.
Oui, bah, qui propose justement des activités école de voile et des stages là pendant les vacances scolaires et tout au long de l'année.
Alors, il y a combien de membres dans le club de Saint-Quentin? Et puis, on peut prendre une licence à partir de quel âge? Pour ceux qui seraient intéressés pour venir rejoindre déjà ces différentes sections.
Bah, on peut pratiquer la voile à partir de 6-7 ans à la barre d'un bateau. Hein. Après, on peut monter un petit peu plus tôt, hein, 4-5 ans sur un bateau. Je l'ai fait un peu avec mes filles. On peut pratiquer, à partir de 6-7 ans. Sans problème.
C'est au mois de septembre ou on peut s'inscrire comme ça en cours d'année ou il faut attendre la rentrée?
Non, vous pouvez appeler aujourd'hui pour prendre un stage week-end, samedi, dimanche, sur la base. On peut également en faire là pendant les vacances de Pâques, du lundi au vendredi, toute la journée, avec possibilité de repas sur place, au restaurant Les Alizés, en bord de l'eau.
Ah d'accord, on n'est pas obligé de prendre une licence à l'année, c'est un peu comme pour l'équitation, comme pour le cheval, on peut le prendre à la séance, au mois, à la semaine.
On peut prendre une licence école de voile, oui. Qui n'est pas la licence fédérale à l'année, et qui permet aussi de pratiquer, la licence vient de changer, là, ça permet de pratiquer dans tous les clubs.
D'accord.
En fait, c'est une licence fédérale.
Voilà. Donc les jeunes commencent à 6 ans, après on les initie donc avec des moniteurs diplômés au plaisir de la voile, et puis ils peuvent faire les premières compétitions à partir de quel âge?
Bah, on peut commencer à partir de 6-7 ans, pareil, la compétition.
D'accord.
En fait en optimiste, là on a des équipages qui sont sur justement La Rochelle, le fils de Philippe Boite là, qui court en Benjamin, qui a 8 ans, a commencé la voile en école de voile il y a 2 ans, et pratique déjà sa première compétition, et une compétition nationale.
Alors les bateaux sont prêtés par les clubs?
Les bateaux sont prêtés.
On n'est pas obligé d'avoir encore son propre bateau.
Non, tout à fait. Pour les jeunes Benjamin Minime, le club prête le matériel, met à disposition tout l'ensemble de l'équipement. L'encadrement est fait par des brevets d'État et des entraîneurs fédéraux pour toute la partie entraînement sportive. Brevet d'État également pour toute la voile scolaire. Et le diplôme de moniteur pour l'été, pour les vacances, les moniteurs qu'on retrouve aussi dans les clubs en bord de mer.
C'est un sport qui est cher, la voile, pour des parents, pour ne serait-ce que mettre leurs enfants pendant les périodes scolaires.
À l'année, en école de voile, vous allez payer aux alentours de 250 euros à l'année pour des entraînements tous les samedis après-midi. Donc, ramener à l'heure, je pense qu'on est beaucoup moins cher que de certains sports ou certaines disciplines.
Et si on veut faire la compétition après, c'est plus cher, on paye un supplément
Il y a un supplément, oui, il y a le supplément déplacement à chaque fois, qui est à la charge des parents. Bon, le club essaye de participer, mais on a les remorques à déplacer. On fait pas de grands déplacements en bus, ou on est obligé de prendre en fait nos véhicules pour pouvoir tracter toutes les remorques.
Et à partir de quel âge on se spécialise? À partir de quel âge on choisit telle ou telle catégorie d'épreuve ou telle catégorie de bateaux?
Alors, si on commence à 6-7 ans, on va commencer en optimiste, qui est un dériveur solitaire, pour le dériveur, jusqu'à 10 ans, 14 ans, jusqu'à 14 ans en minime. Mais par contre, entre 10 ans et 14 ans, on peut changer. C'est-à-dire qu'on peut commencer à faire de la planche à voile. Il y a la croissance, donc c'est pour ça qu'on commence pas trop tôt la planche à voile en compétition. Planche à voile, on peut commencer à 6-7 ans, pareil, avec des nouvelles voiles, des voiles de petite taille, des petits flotteurs très larges, très stables. Et ensuite, on peut choisir du dériveur, du quillard ou du catamaran également qu'on pratique sur l'étang de Saint-Quentin, ou revenir aussi à d'autres pratiques comme le canoë sur nous avons.
Ah, le canoë aussi, il y a une section canoë aussi.
Il y a une section canoë, il y a le club de kayak de Trappes qui est également présent sur la base de loisirs et qui propose le mercredi et le dimanche matin des activités.
Mais ça, c'est un sport complètement différent. On peut aussi faire la voile et puis le canoë, on peut mener deux activités comme ça, nautiques.
Quand
on est jeune, après. Bon.
Oui, quand on est jeune, si l'objectif il est de faire du loisir découverte, et je crois que c'est aussi le rôle des clubs, d'aller que ce soit la dominante, c'est de justement pouvoir proposer à plusieurs clubs, comme là à Saint-Quentin, des activités au niveau du nautisme, ou autour du nautisme, comme sur la base de loisirs, où là on retrouve différents acteurs en fait qui se partagent un plan d'eau, avec qui on travaille conjointement, comme la pêche, comme la réserve naturelle nationale, le club de voile, le club de kayak, et d'organiser après des manifestations même communes. Là prochainement il y en aura une, c'est la fête du nautisme au mois de mai.
D'accord.
Qui permettra donc de faire découvrir toutes les activités gratuitement à l'ensemble des personnes venant sur le site. D'autres manifestations comme à la Toussaint, parce que pareil, l'avantage qu'on a sur l'île de France, c'est de pouvoir naviguer toute l'année. Donc on propose d'autres activités comme à la Toussaint.
Contrairement à ce qu'on croit, on peut naviguer toute l'année, quoi.
Ah ben, vous venez l'hiver, en décembre, en janvier, il y a des bateaux qui naviguent, il y a 30-40 bateaux tous les samedis après-midi en laser, des bateaux solitaires qui est un bateau des Jeux Olympiques. Et le samedi après-midi, on a plusieurs personnes qui ont fait des Jeux Olympiques, qui ont fait les championnats du monde sur ce type de bateau.
Alors l'équipement, c'est juste le gilet de sauvetage, tout.
Alors pour l'hiver, c'est la combinaison sèche, le gilet, bonnet, gants et bottillon.
Pour éviter d'avoir froid quand même.
Et l'été, lorsque les enfants viendront faire des stages, s'il y en a qui veulent faire des stages cet été sur la base de loisirs au club de voile, c'est une paire de chaussures usagées, un short, un caouet, un t-shirt, casquette, lunettes de soleil et de la crème. En espérant que cet été, on ait une belle saison 2008 par rapport à 2007.
Alors, il y a aussi la voile scolaire, ça c'est important, c'est une activité très répandue dans les milieux scolaires, et vous travaillez beaucoup à Saint-Quentin avec eux.
Nous recevons à peu près 50 classes scolaires par an sur le plan d'eau de Saint-Quentin. Il y a 3 centres voile scolaire dans le département des Yvelines. Le plus proche de Rambouillet, c'est Saint-Quentin, pour pouvoir pratiquer. Alors on propose des cycles de 10 séances. Ce sont des séances qui sont aidées également par le Conseil Général des Yvelines, qui participent au financement des séances pour les écoles primaires du département.
Oui, il y a quelques compétitions aussi, interscolaires aussi.
Alors au mois de mai, sur une autre base de loisirs, parce qu'on tourne tous les ans, l'an passé c'était chez nous, les jeux nautiques scolaires. Donc c'est 8 classes du département qui se regroupent et qui pratiquent des 4 ateliers autour de la découverte des animations. Et c'est vraiment, l'objectif c'est de la découverte, de l'initiation. Et il y a un travail qui est fait également avec l'enseignant pendant toute l'année, avec par rapport au cycle de la voile scolaire.
Et ça a permis à certains ensuite de faire de la voile en poussant un peu plus loin, quoi.
Ah, nous avons des quelques-uns qui sont sortis de ce projet-là. Mm-hmm. Un que j'entraînais qui est sorti de la voile scolaire et qui l'an passé est parti au championnat du monde à Auckland à 20 ans en 420. Mm-hmm. Donc oui, c'est l'objectif, c'est de faire découvrir et de faire pratiquer toutes ces activités.
Alors, il y a Saint-Quentin, hein, c'est le grand centre et la grande base de loisirs pour les sports nautiques, mais on n'oubliera pas, tout près de chez nous aussi, les fameux étangs de Hollande. Alors, on peut faire de la voile. La planche à voile, c'est encore en pourparler.
Bah, la voile, oui, bah, l'étang de la... enfin, il y a l'étang de la Tour.
Il y a même des pédalos.
Moi, j'avais commencé là-bas.
Oui, l'étang de la Tour, oui. Il y a encore un peu de canoë, mais la voile et la planche à voile, c'est plus possible, hein, je crois, à l'étang de la Tour. Hein. Non, il y a des problèmes de réglementation.
C'est vrai qu'il y a des problèmes de réglementation. Il y a un problème aussi d'échange et puis de pratique de chaque sport. Les étangs de Hollande, j'en avais fait. J'ai fait de la planche à voile aux étangs de Hollande quand j'étais au collège.
Oui, c'est un peu plus grand déjà, ouais.
Il y avait une pratique, il y avait un club de voile, il y a du potentiel, hein. il y a des possibilités autour du nautisme sur ces étangs. Oui.
Pour l'instant, on peut faire que de la voile même aux étangs de Hollande.
Ah, je ne sais pas si aujourd'hui ils ont autorisé l'activité, mais il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on pouvait encore. Alors, c'est pratiqué l'été, c'est pratiqué dans un cadre loisir, découverte, des sports de glisse. On n'aura sûrement pas les mêmes conditions qu'à Saint-Quentin ou ailleurs, mais ça demande une mise en place, des aménagements, la réglementation de l'encadrement.
Oui, ça doit être là aussi, peut-être pour des problèmes de.
Donc, tout un projet. Ouais. Le travail en commun, puis après, c'est se repartager un espace entre différentes personnes. Quoi.
Et puis, plus loin, dans le nord des Yvelines, là, on peut même carrément faire du ski nautique. Hein, donc,
Il y a de bases qui proposent du ski nautique. Nous, je sais qu'à sur Saint-Quentin, ça ne sera pas prévu, même si on a des demandes, parce que nous avons la réserve naturelle qui reçoit aussi des scolaires et qui est une zone protégée et que nous souhaitons conserver en termes de protection. Et je pense que la voile est tout à fait adaptée à la protection.
Le scooter des mers, par contre, ça, c'est pas possible. Je sais qu'il y avait des projets il y a quelques temps.
Le scooter des mers peut être fait, mais à condition que ce soit une pratique, je pense, sur un plan d'eau et avec que cette activité sur le plan d'eau. Partager des activités, la même zone de navigation, ça veut dire aussi que les pratiques soient similaires. Et c'est ce que je pense et ce qu'on essaye de conserver sur 50 ans. Même si on a des demandes les plus larges possibles, je pense qu'on a encore quelques plans d'eau qui nous permettent de le faire en Île-de-France, même là autour de Rambouillet, pratiquer du jet ski, pratiquer du scotique ailleurs, et chacun un peu sa spécialité. Quoi.
Sympa. Il manque plus que les vagues pour le surf bientôt. Ouais. Allez, merci en tout cas, Régis. On va vous souhaiter donc bonne chance pour aller chercher un troisième titre donc consécutif de champion du monde au mois d'août en Angleterre.
Merci beaucoup. On va se préparer à ce projet.
Voilà, et puis on souhaite beaucoup de monde dans les clubs de voile. On souhaite un effet, donc Jeux Olympiques, après les Jeux, pour venir renforcer vos clubs de voile dans la région.
Merci beaucoup, à bientôt. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez faire de la voile, vous tapez CVSQ et on vient vous inscrire pour cet été.
Très bien, allez, on continue avec le foot maintenant dans quelques secondes. C'est Tribune Foot, on revient sur le col d'hier à Créteil avec Jean-Louis Leplat, que vous connaissez. Et puis on va recevoir le club de foot de la queue, les Yvelines.